Mais tu avais pas une réunion ?
Oui, mais j'ai dit que j'avais un empêchement citoyen prioritaire.
Tu leur as parlé de l'agité du local ?
Pas besoin, ils écoutent aussi.
Et c'est sur l'autre radio. Et si tout commençait là, dans les bras d'un parent qui raconte une histoire sans trop la lire, dans un silence habité où les mots font leur premier pas ? Et si la culture, la vraie, celle qui relie, qui chavire et qui console, commençait avant même qu'on sache lire au creux d'un rire, d'un regard, d'un livre entrouvert. Il y a des festivals pour les grands discours, pour les grandes scènes, et puis il y a Croque les mots, marmots, un festival pour les petits humains en devenir, ceux qui apprennent à nommer le monde avec les doigts, les oreilles, les yeux. À Mayenne, les 24 et 25 mai, on ne viendra pas pour consommer, on viendra pour s'émerveiller, pour s'arrêter, pour regarder vivre les enfants et peut-être réapprendre un peu à vivre avec eux. Aujourd'hui, on tend l'oreille à Mélissa Rousier, la coordinatrice de ce salon, pas comme les autres. J'avais très envie d'en parler avec vous. C'est l'entretien du jour, celui de votre émission quotidienne qui commence tout juste. Bienvenue à vous, amis auditeuristes. Dans un instant, cap sur l'agri-campus de Laval. Là-bas, de jeunes pousses en bac pro agricole préparent une récolte un peu particulière, celle de sourires, de journées pour semer la curiosité chez des enfants de maternelle, des tracteurs, des animaux, des rires à plein. Un chant, on vous racontera ce projet qui cultive très simplement l'envie de transmettre. Et en studio aujourd'hui, ambiance plus intime que d'habitude, Maxime se repose après s'être donné à fond hier. Adèle revient demain pour de nouvelles aventures, mais heureusement, Yann et Titouan sont bien là. Comment est-ce que vous allez tous les deux ?
Ça va très bien.
Bonjour à tous, ça va très bien, merci Margot.
On terminera l'émission avec la chronique de l'UFC Que choisir de la Mayenne, portée comme toujours par la voix précise et bienveillante de Jean-Michel Guinaudeau. Mais pour l'heure, on ouvre grand les yeux, on ouvre grand les oreilles, place à l'entretien du jour. Rapprochez-vous, ça commence maintenant.
Bah tu écoutes quoi là ?
Chut, c'est la JT du local, ça me détend les neurones.
Et c'est sur l'autre radio. Alors à Mayenne, les 24 et 25 mai prochains, les tout-petits auront droit à leur grand rendez-vous culturel, le salon Croque les mots, marmots revient pour sa 9e édition avec des livres, des spectacles, des images, des instants à partager entre enfants et adultes. Un événement poétique, sensoriel, mais aussi profondément collectif, pensé pour les enfants de 0 à 6 ans. Pour nous en parler aujourd'hui, Mélissa Rousier, coordinatrice du salon. Bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour.
Alors Croque les mots, marmots, je le disais, revient pour sa 9e édition. Alors pour l'auditeur de l'autre radio qui ne connaîtrait pas du tout, qu'est-ce que c'est Croque les mots, marmots ?
Alors Croque les mots, marmots, donc c'est avant tout une aventure collective, mis en place par des professionnels du livre et de la petite enfance de 4 communautés de communes. Et c'est un temps fort qui va se dérouler le temps du week-end, donc des 24 et 25 mai, autour du livre, du spectacle vivant et plus largement de l'éveil artistique et culturel. Donc vraiment ce public spécifique des tout-petits. Et puis bien évidemment accompagné des grands frères, des grandes sœurs, des parents, des grands-parents, des tontons, des tatas.
Et alors quelle est peut-être la philosophie qui guide cet événement ? Qu'est-ce que vous avez voulu mettre au cœur de cette nouvelle édition ?
Alors le fil rouge pour cette année 2025, c'est l'art de la rencontre, l'art de la relation. C'est vraiment le duo de parrain-marraine cette année, que sont Albertine et Germano Zullo qui nous ont donné envie de tirer ce fil rouge. C'est vrai que cette notion, on la retrouve dans beaucoup, beaucoup d'albums. On la retrouve forcément avec les tout-petits qui sont forcément accompagnés d'un adulte. C'est ce qu'on prône aussi dans la défense de l'album et des tout-petits, c'est que c'est une vraie histoire de lien, c'est une vraie histoire de rencontre entre un lecteur, un tout-petit et cet album qui forme une jolie triade. Et on le dit toujours et encore, mais on n'a jamais fini de le répéter, que les albums et la lecture sont super importants dans le développement des tout-petits. On a aujourd'hui plein de chercheurs qui ont appuyé tout ce qui était pressenti par les lecteurs de terrain.
Et alors justement, tu nous parlais des deux parrains de cette édition, Albertine et Germano Zullo. Qu'est-ce que tu peux nous dire de leur travail et de leur place dans l'univers de la littérature jeunesse ? Tu nous as parlé de relations, mais est-ce qu'on peut aller au-delà aussi ?
Pour situer Albertine, Albertine et Germano, c'est un couple au travail, un couple dans la vie. Ils sont suisses. Et Albertine, c'est un prix Nobel de la littérature jeunesse. En fait, elle a reçu le prix Andersen qui équivaut à peu près, oui, au prix Nobel dans le monde de la recherche. Et donc, c'est un très grand nom de la littérature jeunesse dans le monde entier. Donc, nous, on a à cœur d'avoir des grands noms qui ne sont pas forcément connus du grand public, mais en tout cas, qui est vraiment le gage d'un travail assez exceptionnel, tant dans la partie illustration que mène Albertine et dans la partie d'écriture des textes qui est plutôt à la main de Germano, qui est aussi scénariste, qui a été un des premiers scénaristes notamment de Ma vie de courgette en cinéma d'animation, qui a beaucoup travaillé avec Claude Barras. Donc c'est vraiment deux grands noms qu'on a envie de découvrir, et avec des albums qui parlent aux petits mais comme aux grands, comme aux adultes. Hein. On a, moi, des albums que j'offre à des adultes tellement ils sont forts artistiquement, dans la patte artistique et aussi dans ce que ça dit et dans ce que ça raconte. Ils ont vraiment, en tout cas, cette capacité de pouvoir traverser des grandes questions et des grandes thématiques et des sujets même parfois très difficiles, hein, que peuvent être la prison, la séparation, enfin, plein de thématiques un peu dures pour les enfants, mais d'une manière tellement poétique et tellement joyeuse et tellement drôle. Ils sont super drôles.
Et alors, on parle de littérature jeunesse. Les tout-petits ne savent pas encore lire, mais par contre, ils savent très bien ressentir. Qu'est-ce que permet un festival comme celui-ci, justement, pour les enfants de moins de 6 ans ?
Bah, moi, j'ai envie de dire, avant tout, de passer du temps avec son enfant. En fait, on est dans une vie où on court en permanence. Et c'est pas toujours facile de trouver du temps où on se rend vraiment disponible pour vivre des aventures avec son enfant. Donc j'ai envie de dire, la première chose, c'est de se créer un moment en famille où on est avec son enfant, et on vient pour ça, pour passer du temps avec son enfant et de se créer une mémoire familiale, des souvenirs en famille. C'est la première chose. À la fois, c'est simple, mais c'est difficile de trouver le temps de le faire. Et puis parfois on va pas savoir comment trouver le bon album. Donc là, l'idée, c'est aussi de trouver des conseils, d'avoir plein de professionnels autour. Et parfois, c'est en voyant aussi des lecteurs sur des temps de lecture individualisés, de voir que son enfant, il réagit par le corps, par les yeux, par les babillements, et qu'en fait, il se passe des choses incroyables dès la naissance, entre la voix du lecteur, entre l'album et le bébé. Et des fois, d'être spectateur de ça, ça permet de se convaincre ou découvrir aussi des compétences de son enfant. Le but, c'est pas de tout faire, absolument pas de tout faire. On n'est pas là pour courir et pour... Il y aura forcément des frustrations parce qui dit accueil des tout-petits, on va être sur des petites jauges, on va être sur des petits rendez-vous pour bien accueillir chacun. Et on sait que un tout-petit, il n'a pas une capacité de toute façon de concentration qui est très longue. Donc quand on a fait un spectacle dans le week-end, c'est bien. Si on a pu faire une lecture, si on a pu découvrir, passer un temps à jouer ensemble, c'est très bien, mais on ne pourra de toute façon pas tout faire.
Qu'est-ce que tu constates, toi, de la place de la culture, de l'importance de la culture, justement, sur les toutes premières années ? Tu as pu dire, effectivement, qu'il y avait des chercheurs qui étudiaient ça et puis qui montraient aujourd'hui à quel point c'était essentiel. Aujourd'hui, il y a encore des résistances, des fois, un peu dans toutes ces questions-là, des nouvelles choses émergent, heureusement. Mais voilà, c'est pour rappeler à l'auditeur que c'est important et essentiel même.
C'est vrai que le jeune public, ça a souvent été mis un peu à côté ou à part. Ça l'est toujours un petit peu, même si on sent que... aujourd'hui, au sein du ministère de la Culture, il y a une vraie place pour la culture et les tout-petits, pour l'éveil artistique et culturel. En tout cas, on sent, nous, au quotidien et sur le terrain, que ce soit en classe maternelle, où on entend souvent, c'est souvent des remarques qu'on entend, notamment... d'enseignants ou de d'adultes qui ont l'habitude de côtoyer aussi les bébés en crèche, qui nous disent « Ah, mais c'est incroyable, avec la venue de cet artiste, on a redécouvert cet enfant. » En fait, c'est aussi un autre médium, c'est aussi une autre manière de s'adresser à l'enfant. Et pour certains enfants, ça leur parle directement. Voilà, en grandissant, nous, certainement, on se ferme des cases, et qu'un tout petit, il naît avec... une sensibilité en tout cas beaucoup plus forte, je pense, que l'adulte, et une ouverture beaucoup plus grande que l'adulte, et les artistes nous apportent ça.
C'est un salon qui se vit autant avec les yeux qu'avec les mains et les oreilles. Comment est-ce que les différents temps, les différents espaces ont été pensés ? Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette programmation ?
On essaye, oui, d'être éclectique. En tout cas, on part dans notre manière de travailler. Donc l'album est toujours au cœur de notre travail, mais on on a toujours eu à cœur de créer des liens et des passerelles entre les différentes disciplines artistiques. Donc au cœur du salon, on va retrouver donc l'album et 12 auteurs illustrateurs invités dans la librairie géante tenue par les librairies Emlire et la librairie du Marais à Mayenne. Donc qui sont là, qui sont vraiment des super professionnels et qui vont pouvoir conseiller les familles. Et puis les auteurs sont présents aussi, donc c'est toujours magique pour les enfants de pouvoir voir ce temps de dédicace et l'illustrateur dessiner en direct. Au niveau du salon, on va avoir aussi des expositions à jouer, à manipuler, qui sont une manière aussi pour l'enfant de poursuivre l'univers d'un auteur-illustrateur, mais d'une autre manière aussi par le toucher, l'exploration plus sensorielle. On va avoir donc au centre du salon le grand banquet d'Albertine et Germano, qui va être vraiment un espace là pour bricoler, avec des ateliers plastiques. On a aussi l'association Payaso Loco qui va animer un espace là aussi en clin d'œil avec nos parrains. Donc Albertine est une fan de costumes et aussi de l'art de la table. Donc on pourra à la fois créer ses propres costumes et ses aliments en tissu. Donc là, on a aussi un partenariat avec le service des chaînes Mayenne Communauté et puis le relais où on aura des bornes pour venir déposer des vêtements trop petits. Et à partir de vêtements de seconde main, voilà, il y aura tout cet atelier et puis des défilés de mode, etc., qui seront organisés sur le salon. Et on va retrouver également les espaces croque-histoire qui sont vraiment des espaces qui mettent en lumière tout le travail qui est mené par les bibliothécaires et bénévoles des réseaux lecture tout au long de l'année dans les bibliothèques. Voilà pour la partie vraiment salon dans la salle polyvalente. On a ensuite un espace extérieur pour que voilà, les familles puissent aussi prendre l'air. Et là, on a donc cette année travaillé avec une compagnie qui s'appelle la compagnie En Attendant, qui viennent avec une fancy fair. Donc la fancy fair, c'est la kermesse en Belgique. Un moment pour s'amuser en famille sur des grands jeux qui ont été travaillés, illustrés par des illustrateurs qui seront aussi invités sur le salon. On va retrouver également dans le Grand Nord tous les ateliers avec les auteurs illustrateurs. Donc là, en petite jauge, mais vraiment, c'est un petit temps privilégié avec un artiste.
Je pense qu'on peut dire qu'on est un territoire de liens. On parle de liens depuis le début de cet entretien. Rien qu'à voir les partenaires, toutes ces personnes qui travaillent autour, ne serait-ce que de ce salon, déjà, on remarque effectivement qu'il y a une vraie dynamique culturelle, encore riche, encore dense, encore précieuse sur le territoire. Mayenne.
Oui, il y a un travail de réseau qui est énorme. Croque les mots marmots, c'est 10 commissions de travail et 70 professionnels et partenaires qui sont investis. Donc c'est vraiment le cœur de Croque les mots. Et oui, cette dynamique, elle est forte. Certainement, peut-être le fait qu'on soit aussi en milieu rural et je pense sur le département de la Mayenne plus globalement. En fait, on est quand même un département assez réputé pour la qualité et la facilité à travailler en réseau entre les acteurs. Et sur Croque, voilà, c'est vraiment une aventure qui est née du collectif et qui est née des échanges entre des professionnels de la culture, des professionnels de la petite enfance, de l'éducation. Donc c'est vraiment le terreau fertile qui fait que Croque existe aujourd'hui.
Tu parlais tout à l'heure de l'impact sur les enfants, de l'effet sur les enfants, de rencontrer des professionnels du livre, des livres qu'ils peuvent avoir ou des albums jeunesse en tout cas qu'ils peuvent avoir chez eux. Comment est-ce que les professionnels, eux, les artistes qui sont présents lors du salon, vivent aussi cette rencontre avec les enfants qui sont en fait leurs lecteurs.
Il faudrait leur poser la question directement, mais en tout cas, c'est toujours... En tout cas, pour ceux qui se déplacent, alors on a une partie qui se déplace déjà en amont, dans les écoles, dans les crèches. On a pas mal des artistes invités sur le salon qui sont déjà venus sur le territoire. Donc ça, ils nous disent que c'est toujours un plus, parce que pendant le salon, ils ont aussi pas mal d'enfants qui reviennent en disant « mais on s'est vu à tel moment, à tel endroit ». Parfois, ils se souviennent, parfois, ils font semblant de se souvenir. Mais en tout cas, c'est toujours, je pense que pour ceux qui se déplacent, c'est le retour qu'on a, c'est que c'est aussi des moments qui sont importants pour eux d'être confrontés directement au public, parce que en fonction des processus de création de chacun, en général ils nous disent qu'ils pensent pas aux bébés, qu'ils pensent pas aux enfants quand ils créent. Donc c'est toujours assez stimulant et de voir la réception, en tout cas oui, par les enfants et leur réaction en direct.
Qu'est-ce qui toi t'émeut le plus peut-être à l'arrivée, à l'approche de cet événement ou lors de l'événement, lorsque tu constates justement tous ces gens qui viennent rendre hommage, mettre à l'honneur cet album jeunesse, ces albums jeunesse.
En tout cas, ce qui me conforte à chaque fois dans notre manière de travailler, c'est les professionnels qui ressentent le temps du salon, le temps du festival, tout le travail qu'il y a eu en amont collectif dans les territoires. Et ça, ils le saluent en général tous. Donc ça, c'est très plaisant de l'entendre parce que c'est exactement ce qu'on met comme intention dans notre travail. Et moi, je dis toujours, croque n'aurait pas de sens s'il y avait juste le temps du festival sans rien en amont. Parce qu'en fait, c'est vraiment une mise en lumière d'un travail de fond qui est mené dans des territoires ruraux de manière invisible. Parce que des toutes petites structures, peu de professionnels dans chaque structure, des toutes petites jauges, parce que 0-6 ans, enfin je veux dire, il n'y a pas de paillettes là-dedans, hein. C'est vraiment un travail de militant presque, de l'invisible. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Et puis, j'ai aussi souvenir des auteurs illustrateurs qui me disaient, on sent en fait aussi dans le public, dans les familles qu'on rencontre, dans les enfants qu'on rencontre, il y a une attention, enfin je pense notamment à la librairie, il y a 2 ans, où ils étaient très surpris du temps que chaque famille passait à échanger avec l'auteur illustrateur, passe à regarder les albums. Et puis ce qui m'émeut aussi, c'est de voir qu'à certains moments on a des familles qui sont pas forcément habituées à venir au spectacle, pas forcément habituées à franchir ces lieux culturels, et voilà, parfois on a des questions, on se dit là on sent qu'il n'y a pas l'habitude, et c'est se dire mais c'est super, justement on accompagne ça. Et moi je crois qu'en tout cas ce qui m'anime aussi dans ce travail auprès de ce public là, c'est de me dire que ce moment très particulier où on devient parent, je crois au fond de moi qu'on a, dans une très grande majorité des cas, l'envie profonde de faire au mieux pour son enfant, et que peut-être que soi-même on n'a pas eu cette chance d'avoir des occasions.
Qu'est-ce que ça change selon toi, une société qui prend soin du lien entre les enfants et la culture? Qu'est-ce que ça promet pour demain? Qu'est-ce que ça propose d'après toi?
Je crois qu'on y est encore quand même malgré tout un petit peu loin. Je pense que quand on aura une société qui prend vraiment soin des tout-petits et des personnes âgées, on aura fait un grand, grand pas dans l'humanité. Voilà, localement, il y a plein de choses qui sont mises en œuvre et on a de la chance, mais c'est pas encore des questions malheureusement prioritaires. Je crois qu'il y a de l'envie. Après, on voit bien sur l'accompagnement des structures qui accueille des bébés et des personnes âgées, on a encore tellement à faire.
Le salon Croque les mots Marmots revient donc pour sa 9e édition, je redis, le 24 et le 25 mai cette année. Donc toute la programmation est disponible sur internet et puis dans différents espaces de Mayenne.
Oui, c'est ça. L'entrée principale est gratuite sur le festival. Seuls les spectacles et les projections sont payantes. Donc les billetteries spectacles et cinéma sont déjà ouvertes via le site internet. Et pour tout ce qui est inscription sur les ateliers, c'est directement le temps du week-end, 45 minutes avant chaque atelier.
Merci beaucoup Mélissa de nous avoir accordé ce temps.
Merci à vous.
L'agité du local sur l'autre radio. Vous écoutez l'agité du local sur l'autre radio et ça continue, mais on fait d'abord une pause. Titouan, qu'est-ce qu'on écoute?
On va écouter Ride It de DJ Regard pour danser à table.
Came off for my gloss. The dizzy place your favorite song. Kanye's all. Now you're beckoning for me to dance. Pulling me close. Just close your eyes, girl. Cause mama telling me we gotta go. Won't you take me home? I wanna ride it.
Avec nous sur l'autre radio 107.9 à Château-Gontier et 100.7 à Laval. Ils sont en première bac pro. Ils et elles apprennent à travailler la terre, à comprendre le vivant et ils ont décidé de partager tout ça avec les plus petits. À l'Agricampus de Laval, un groupe d'élèves préparait un projet d'accueil pour des enfants de maternelle, de jour, pour découvrir le monde agricole autrement, à hauteur d'enfants. Nous sommes allés à leur rencontre entre idées qui germent, fierté de transmettre et projection d'avenir. C'est le reportage du jour. Merci à Titouan pour le montage. Écoutez.
Julien Gauthier, professeur d'ESC d'éducation socio-culturelle au lycée agricole de Laval.
Nous sommes le lundi 12 mai, vous avez accueilli des élèves de maternelle de l'école Jules Verne à Laval. Alors, de quoi s'agit-il ?
Donc, une cinquantaine d'élèves de l'école Jules Verne, deux classes. De quoi s'agit-il ? D'un partenariat en fait mis en place à l'année. Et c'est aujourd'hui, c'est un peu l'aboutissement de quelques heures de préparation avec les élèves de première de l'établissement et puis l'aboutissement d'un partenariat avec cette école pour les faire venir ici, chez nous, découvrir le milieu agricole.
Alors, qui sont ces élèves qui ont proposé des activités aux jeunes, puisque il s'agit en fait d'activités mises en place pour ces élèves de 3 à 6 ans, c'est bien ça ?
Oui, des élèves de 3 à 6 ans, voire même un peu en dessous, hein, 2 ans et demi. Des élèves de première bac pro. C'est dans le cadre de leur parcours de formation d'attester de certaines capacités, de développer des compétences. Et dans le cadre de ce projet-là, une classe de première bac pro qui est porteur du projet.
Qu'est-ce qui est important pour vous de faire se croiser justement ces deux écoles et ces deux générations différentes ?
La rencontre des publics permet une meilleure connaissance, entre les gens, entre les personnes. C'est des humains avant tout, qui se croisent, qui se rencontrent. De faire tomber aussi éventuellement des stéréotypes ou des idées un peu trop vite fait conçues. Et justement, ces interactions vont favoriser un regard peut-être différent sur autrui. Je suis du milieu agricole, je ne connais pas forcément le quartier. Inversement, je suis un petit bout du quartier, je connais pas l'agricole. Peut-être qu'en se rencontrant, on va abattre aussi des idées préconçues.
Et alors, vous en avez dit quelques mots, il y a différents rendez-vous que vous vous donnez mutuellement dans l'année. C'est-à-dire que ce matin, ce sont des tout-petits qui sont venus au lycée agricole, mais il y a eu aussi, à l'inverse, des lycéens qui sont venus à l'école Jules Verne.
Oui, c'est ça. En fait, des rencontres au préalable, puisqu'on nous sommes allés en novembre et en mars. Il y a eu deux rencontres. De la classe de première pro, en fait, qui s'est déplacée à l'école Jules Verne. Et puis, ça a fait l'objet aussi de visites du quartier avec le service du patrimoine de Laval. La découverte aussi du projet de ferme urbaine de Saint-Nicolas. Tout cet ensemble permet aussi une cohérence et une connaissance un peu plus approfondie des choses et des personnes qui animent le territoire.
Qu'est-ce que vous constatez, vous, comme impact positif sur ces rencontres-là depuis effectivement toutes ces années où...
Des fois, c'est un peu des graines qu'on sème et on les récolte peut-être un peu plus tard. Et puis, je pense que finalement, cette question-là, il faudrait la poser directement aux élèves. Aux principaux intéressés, qu'eux-mêmes peuvent en parler de façon plus directe.
Mayane Alexandre Fleury, je suis en première bac pro CGEA.
Alors bonjour, je m'appelle Yovan Aubry, je suis en première bac pro CGEA au lycée agricole.
Bonjour, moi du coup c'est Amy Poignant et je suis en première bac pro à l'école aussi.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire de ce qui s'est passé ce matin au lycée agricole ? Votre professeur a pu nous en dire quelques mots. Vous avez accueilli des élèves de l'école Jules Verne, et donc des 3 à 6 ans.
Alors, du coup, c'était réparti en 5 activités. Donc, il y avait l'activité de dégustation que nous avons fait. Et puis, les autres ont fait un atelier tracteur où les petits sont montés dedans, ont découvert un peu. Les animaux aussi, ou les vaches et les moutons, avec une visite aussi de la partie exploitation au niveau du cheval.
Qu'est-ce qui vous a peut-être étonné, surpris, ou qu'est-ce qui vous a plu dans le fait de présenter ce que vous faites, l'univers qui vous plaît, à des jeunes, des tout petits ?
Ce qui nous a plu, c'est l'intention qu'ils avaient. Ils étaient à l'écoute le matin.
Pour des élèves si jeunes, c'est un peu étonnant quand même qu'ils aient un intérêt aussi proche pour le milieu, alors que ils viennent pas de là, ils habitent un peu en ville.
Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où le monde agricole finalement vous a attiré ?
Mes parents sont pas agriculteurs, mais j'allais beaucoup à la ferme. On a une ferme pédagogique près de chez moi et on allait souvent là-bas. Donc c'est aussi par là que j'ai été dans cette formation aujourd'hui et que je suis en bac pro CGEA.
Eh ben moi, ça a commencé de bonne heure aussi car mes parents sont agriculteurs. Donc dès l'âge de 3 ans, j'allais déjà à la ferme.
Moi, c'est un peu plus spécial parce que mes parents ne sont pas agriculteurs et je fais un petit peu cette formation-là pour avoir un bac parce que je ne veux pas non plus faire ce métier-là à la fin. Mais j'avais besoin d'un bac et vu que je vais dans le monde des animaux après, je préférais faire un bac qui me lance un peu dedans.
Là, c'est un croisement de générations. Qu'est-ce que vous pensez que ça peut leur apporter à eux et qu'est-ce que ça vous apporte aussi à vous de transmettre et puis d'échanger avec ces jeunes-là ?
Je pense que ça leur apporte aussi voir différents métiers que eux connaissent peut-être pas comme ils habitent en ville. Vu l'organisation auprès du lycée, auprès des cuisiniers pour par exemple les pique-niques.
Moi, je pense que ça peut leur ouvrir des portes aux petits enfants qui sont encore jeunes pour décider leur métier qui feront l'avenir, mais ça peut leur montrer différentes façons du métier, quoi.
Votre professeur parlait tout à l'heure des fois c'est aussi une manière de lutter contre des fois des stéréotypes qu'on peut avoir. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le monde agricole, on a encore des idées un peu préconçues dessus ou est-ce que ça a changé ?
Moi je trouve que ça a pas mal changé quand même s'il y a encore certaines personnes qui ont peut-être des préjugés, mais ça a quand même changé au terme des dernières années, quoi.
Donc demain, vous accueillez de nouveau 50 élèves de l'école Jules Verne. Qu'est-ce qui est prévu ? Est-ce qu'on part sur le même programme ? Est-ce qu'il y a des choses différentes ?
Oui, on part sur le même programme, mais du coup, on a fait un débrief en fin de matinée. Donc on a pu voir les problèmes qu'il y a eu dans cette matinée-là et les résoudre pour demain.
Tu parlais tout à l'heure de la séparation ou de la différence limite entre ville et campagne. Vous trouvez justement qu'il y a un état d'esprit différent, un regard posé différent que l'on vienne de la ville ou de la campagne ?
Mes parents sont séparés, donc j'ai ma mère qui habite en ville et qui est en pleine ville. Et donc elle a un regard différent sur l'agriculture que mon père qui est en pleine campagne. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même un regard différent quand tu habites en ville ou que quand tu habites à la campagne.
Quand tu habites en ville, c'est pas forcément, t'as pas forcément le même regard, c'est plus familier pour toi ? Des gens qui habitent en ville.
Qu'est-ce que ça fait pour vous de devoir transmettre, de pouvoir transmettre justement à des jeunes quelque chose qui est hyper important pour vous aujourd'hui ?
Peut-être qu'à l'avenir, il manquera des agriculteurs ou dans différents métiers, il manquera du monde. Donc, il faut ouvrir toutes les portes pour enseigner aux jeunes ce qu'on connaît, quoi.
L'agité du local sur l'autre radio. Et oui, vous écoutez l'agité du local. Dans quelques instants, on retrouve la chronique de l'UFC Que Choisir de la Mayenne et notre chroniqueur Jean-Michel Guinaudot. Conseils, décryptage, bons réflexes de consommateurs. Oui, c'est votre rendez-vous pour mieux choisir. Et c'est juste après un titre que tu as choisi, Titouan.
Ah oui, tout de suite, nous écoutons le rappeur Way Renoir et sa chanson Chemin d'or.
Le chemin est jarre. La confiance n'empêche pas le contrôle. Demande au condé. Quand tu sais qu'on a compté, qu'on compte et qu'on va recompter. La réussite, c'est quand on a né, défaite en heure.
sens est carré, donc le chemin est dard. La confiance n'empêche pas le contrôle, demande au condé. Quand tu sais qu'on a compté, qu'on compte et qu'on va compter. Ah si tu savais le temps qu'on a perdu, à vouloir en gagner, beaucoup de choses nous perturbent. Si seulement j'avais su, je serais jamais resté. À trop vouloir aimer, on finit par détester. Et à force de détester, y'a trop de haine, faut pas tester. Beaucoup de modestie, bon écoute de la vie de star. Et puis les stars c'est dans le ciel, je suis qu'en présidentiel. C'est pas la vie insta, si je t'aime bien c'est à l'instinct. Si t'as pris trop de coups, on te met sous tutelle. La tête sur les épaules, pas comme ces balles tringles. Et si la lumière brille tout au bout du tunnel, il faudra prier Dieu pour que ce soit pas le train. La réussite se coupe en année, les défaites en heure. Mais la patience est carrée, donc le chemin est dard. La confiance n'empêche pas le contrôle, demande où condé. Donc tu sais qu'on a compté, qu'on compte et qu'on va recompter. La réussite se coupe en année, les défaites en heure. Mais la patience est carrée, donc le chemin est dard. Confiance n'empêche pas le contrôle, demande au condé. Donc tu sais qu'on a compté, qu'on compte et qu'on va recompter. Et pas avec le succès, ça fait des relous, ça fait des jaloux. Et puis les jaloux, ça fait des problèmes, très irritants, un peu comme le pollen. Et puis le pollen, c'est ce que l'on pédale pour zapper les problèmes. Toujours un fêtard, toujours un pétard, ce que je te raconte, c'est pas des poèmes. Et puis les poèmes, c'est pour les fragiles, ça nous rend dur. L'argent facile, je te laisse les balades, je te laisse la poème, moi je prends les Cohen. On s'excuse jamais, même à nos gavins, un peu trop de fierté. On dit pas je t'aime, beaucoup d'enquêtes. Même si je suis carent, je te dirai ça va. Si t'as pris trop de coups, on te met sous tutelle. La tête sur les épaules, pas comme ces balles tringles. Et si la lumière brille tout au bout du tunnel, il faudra prier Dieu pour que ce soit pas le train. La réussite se coupe en année, les défaites en heure. Mais la patience est carrée, donc le chemin est dard. La confiance n'empêche pas le contrôle, demande au condé. Donc tu sais qu'on a compté, qu'on compte et qu'on va recompter. La réussite se coupe en année, les défaites en heure. Mais la patience est carrée, donc le chemin est dard. N'empêche pas le contrôle, demande au condé. Donc tu sais qu'on a compté, qu'on compte et qu'on va recompter.
Place maintenant à votre rendez-vous conso du jour avec l'UFC Que Choisir de la Mayenne. On passe à la loupe nos habitudes d'achat, nos droits et parfois nos mauvaises surprises.
La chronique du FC Que Choisir 53 avec Jean-Michel Guinaudeau.
Bonjour Jean-Michel Guinaudeau, en début d'année, vous nous avez donné des conseils pour que l'achat d'une voiture d'occasion ne tourne pas au cauchemar. Vous avez souhaité compléter cette chronique.
Et bonjour Margot. Dans cette chronique de début d'année, nous vous donnions les précautions à prendre pour cet achat conséquent. Achat chez un professionnel sérieux, de proximité et sans aucune lacune sur les informations et documents fournis. Comme toujours, pas d'achat précipité, l'urgence étant toujours mauvaise conseillère. Depuis quelque temps, on trouve sur le marché des véhicules des marques du groupe Stellantis, ex-PSA Peugeot, à des prix défiant toute concurrence. Il faut savoir que ces marques ont commercialisé, depuis 2012, des véhicules avec un moteur essence appelé PureTech Gen 1 et Gen 2 à courroie, 1 litre ou 1 litre 2. Ces moteurs présentent un défaut de conception sur la courroie de distribution. De trop faibles dimensions, celle-ci peut lâcher d'un moment à l'autre, et une surconsommation d'huile pouvant entraîner la casse du moteur. Le remplacement sur les modèles concernés d'un moteur à chaîne a commencé en 2023. Les moteurs à courroie ne seraient plus commercialisés aujourd'hui.
Si j'ai bien compris, il s'agit d'un défaut de construction, d'un vice caché, comme vous nous le dites. Que fait Stellantis en cas de panne ?
Après avoir longtemps fait la sourde oreille aux demandes d'indemnisation, ou ne prenant en charge qu'une faible partie des frais de remise en état, Stellantis a enfin admis le problème et a mis en place une plateforme que les propriétaires ou garagistes peuvent solliciter pour obtenir une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100% des frais. C'est la même plateforme que pour les problèmes de pompe à Adeblue. Problème pour lesquels Stellantis a enfin accepté une prise en charge systématique de la totalité ou d'une partie des frais de réparation.
C'est bien ça, non ?
Ben, ça serait bien si les conditions et restrictions n'étaient pas aussi draconiennes. Période de prise en charge, règles de réalisation de l'entretien, âge et kilométrage du véhicule, etc. Et sur certains véhicules, il y a eu une opération de remise en conformité par le remplacement de la courroie, de l'huile, etc. Mais si l'on ne peut savoir si le moteur a été endommagé avant l'opération. Le moteur peut casser à tout moment.
Avez-vous une liste des modèles concernés ?
La liste complète se trouve sur le site de quechoisir.org avec un mot-clé PureTech. Les marques sont les suivantes : Citroën, DS Automobile, Peugeot, Opel, Toyota. Rappelons quand même que seuls les modèles de ces marques équipés de ces deux moteurs essence, PureTech 1 litre et 1 litre 2, sont concernés par ce défaut, les autres modèles étant fiables. En conclusion, et comme toujours, un prix trop bas ou une remise importante doivent faire l'objet d'une attention particulière. Ne pas croire toutes les raisons qui pourraient être données pour justifier le prix bas, qui n'est dû qu'à un problème de fiabilité. Et résister à la fête d'urgence.
Merci Jean-Michel Guinaudot pour ces informations. Est-ce que vous pouvez rappeler les coordonnées de votre association pour que les auditeurs puissent vous joindre ?
Alors l'UFC Que Choisir de la Mayenne est joignable du lundi matin au vendredi midi de 9h à 12h et de 14h à 17h au 02 43 67 01 18 par mail à contact@mayenne.ufcquechoisir ou sur notre site mayenne.ufcquechoisir.fr pour un renseignement ou un rendez-vous à Laval ou Château-Gontier. Et bien sûr, pour nous proposer vos services pour des animations ou le traitement des litiges. À bientôt.
À bientôt Jean-Michel. L'agité du local, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Mélissa Rousier d'avoir été à notre micro. Merci aux élèves de l'Agricampus de Laval pour leur accueil. Et merci à Jean-Michel Guinaudot, bien sûr. On rend l'antenne, mais ça ne s'arrête jamais sur les ondes de votre radio locale. Qu'est-ce qu'on écoute ce soir, Yann ?
Eh bien, à 19h, une émission pour tous les fans de musique. L'émission Novorama part à la recherche de nouveaux albums rock, électro, pop.
Merci, Yann. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'Agité du Local. Nous serons avec Thibaut et Chloé du Gazou Fest qui viendront nous dévoiler les coulisses et les surprises de la prochaine édition qui aura lieu du 13 au 15 juin à Saint-Denis d'Anjou. D'ici là, ne cherchez pas forcément à faire mieux que la veille. Parfois, tenir debout avec un peu de café et beaucoup de patience, c'est déjà très très bien. S'il vous plaît, faites-le bien.
Oh, c'est déjà la fin, bah, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?
Mimi, il y a d'autres émissions qui sont bien aussi sur l'autre radio.